marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
J'avais le choix entre Rio et Dunkerque. J'étais exactement à égale distance entre Rio et Dunkerque. J'ai quand même choisi Dunkerque.
Le carnaval de Dunkerque.
Les gens qui ne sont pas des Dunkerquois peuvent nous prendre pour des sauvages, parce que vraiment ça correspond à rien. On chante, ce sont des vieilles chansons de Dunkerque qui sont tous à base de poissons, parce que ça rappelle la pêche en Islande. Il y a énormément d'écoliers. Ils sont toujours habillés de la même façon, avec leurs petites blouses à carreaux rouges et blancs, leurs petits nœuds, le col blanc. Puis quand on parle carnaval et qu'on pense à quelqu'un, on le voit en mémoire dans son costume. Généralement, le type, pendant 10 ans, s'il fait le carnaval pendant 10 ans, il aura 10 ans le même costume. Moi, j'ai un truc tout à fait qui n'a aucune allure. Je pense pas à changer, quoi. Ça n'a pas grande importance. L'important, c'est qu'on se retrouve.
Le carnaval de Dunkerque excède les normes contemporaines. Il témoigne des jours gras de naguère qui permettaient de se rire des pouvoirs, de dénoncer leur imposture, d'inverser les rôles. Pourtant, dans bien des villes, la culture populaire a été émasculée et carnaval, d'exutoire jubilatoire, est devenu un instrument de promotion touristique et économique quand il ne sert pas, comme à Nice, de laboratoire aux nouvelles techniques de reconnaissance policière. Dunkerque, comme Douarnenez d'ailleurs, à l'autre bout de la France, fait exception. Bien sûr, la municipalité s'y est investie. Elle a relancé le carnaval plus d'une fois, au début du XXe siècle, au lendemain de la longue catastrophe de 1940-1945. Mais c'est des participants que jaillit la sève de carnaval. C'est eux qui font les bandes et ouvrent les chapelles, qui tiennent les balles, reprennent et inventent les chansons. En fait, la singularité du carnaval de Dunkerque repose largement sur son caractère maritime. À l'origine, la fête était destinée aux gens de mer qui allaient embarquer pour une longue saison de pêche en Islande. Les armateurs leur offraient un banquet, mais surtout eux-mêmes organisaient à leur guise les jours qui précédaient la dure vie à bord. Que l'embarquement coïncide avec le début du carême démultipliait leur énergie les jours précédents. Quand ce Mardi Gras s'achèvera, les Dunkerquois entonneront à genoux l'hymne à Jean Bart et ils se tiendront la main. La communion au personnage du corsaire dit tout. Sous Louis XIV, Jean Bart avait assuré le ravitaillement de la ville. En 1945, sa statue tenait encore debout au milieu des ruines. Et si le carnaval a un sens, c'est celui-ci. Il veut signifier que les Dunkerquois solidaires sont de solides gaillards, capables de traverser les épreuves.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Ainsi, Olivier Rigbuche, bonjour.
Bonjour.
Que faisiez-vous hier soir ?
J'étais en chapelle.
En chapelle. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est qu'une chapelle. Et venu courageusement jusqu'à Paris avant de reprendre les festivités à 17h30 ce soir.
18h30, oui.
18h30 ce soir. Je ne vais pas vous présenter. Il y a un mot qui est très souvent utilisé à Dunkerque. On vous intrigue quand on essaye de savoir qui est l'interlocuteur en costume un peu difficile à identifier qui est en face de soi.
Oui, alors effectivement, existe à Dunkerque l'intrigue. Alors, elle a tendance à se perdre un peu, mais ça permet effectivement d'aller voir des gens que l'on connaît sans que eux nous reconnaissent et de divulguer un certain nombre de choses sur leur vie privée ou personnelle. Et ce jeu permet effectivement à ceux qui pratiquent l'intrigue effectivement d'aller embêter un petit peu les gens qui sont au carnaval, notamment ceux qui n'y participent pas, mais qui regardent effectivement les carnavaleux défiler dans les rues.
Juste pour que les auditeurs muets et moi qui interviendrai sur votre compte, pas sur votre vie privée de temps en temps, sachent un peu déjà à qui ils peuvent avoir affaire. Votre costume, c'était quoi hier soir ?
Alors mon costume hier soir, c'était un ciré jaune de marin avec une mouette sur ma tête.
Un ciré de marin, une mouette sur la tête, le carnaval de Dunkerque, dès le XVIIe siècle, est marqué par ses origines maritimes. Alors c'est la pêche aux harengs, et ensuite, la pêche à la morue.
La pêche à la morue dans la seconde partie du XVIIIe siècle. Oui. La première partie surtout aux harengs, puis après à la morue. D'autant plus que... Alors la morue, pourquoi la deuxième partie du XVIIIe siècle ? Parce que c'était les Pays-Bas qui avaient le monopole de la pêche à la morue. Et puis la rivalité fait que avec ce pays fait que le pouvoir royal s'est lancé dans ce type de pêche avec comme point de départ le port de Dunkerque.
Et on allait à Islande.
Et on allait à Islande, oui, tout à fait.
La bande des pêcheurs, eh bien écoutez, l'origine, paraît-il, remonte à la pêche d'Islande. Avant de partir en Islande, les pêcheurs se rassemblaient pour ce carnaval avant le départ de la grande pêche à la morue.
C'est les gars qui partaient en Islande. C'était des pêcheurs, vous comprenez? Tiens, là, le coup, il part à la pêche et ceci, c'est parce qu'il partait pour 3 mois ou 6 mois. Hein. Mais ils étaient peut-être à 1200 pêcheurs ici, hein, les 3 mois. J'en ai connu dans le bassin du commerce, auprès de ces usines. J'en ai vu 3 quand j'étais petit. Hein, je vous dis. On appelait ça la bande des pêcheurs. C'était des pêcheurs, c'était tous des pêcheurs. Faut dire ce qu'il y en a. Les gars, ils partaient pendant 6 mois, 3 mois. Il y en a beaucoup qui ne retournaient plus. Hein? Restez un petit peu veuve 6 mois à Dunkerque.
Olivier Ricpuche, laisser a cappella pour qu'on comprenne mieux les paroles. Tu vas laisser femmes et enfants pour des morues et des harengs. Et avant la chanson, c'était la voix de Jean Mine. Alors Jean Mine.
Jean Mine, personnage très célèbre à Dunkerque, hein, sous le nom de Copinardeux, qui était tambour majeur et qui menait les musiciens et les masques lourds déambulés dans les rues.
Oh là là, alors attendez. Les tambours majeurs, depuis 1850, à la tête de la bande, au milieu de ciré jaune, la clique, quelqu'un qui est habillé comme un major de la Grande Armée.
Alors, l'origine de cet uniforme d'empire est un peu complexe, parce que avant que les tambours-majors portaient ce type d'uniforme, bien souvent, c'était des membres des corporations, des pilotes, qui dirigeaient effectivement la musique. Et puis, à un moment donné, vous avez effectivement un uniforme qui s'est figé dans celui de grognard de l'empire, et vous avez donc la lignée d'Écho, hein, qui est du minutif flamand qui veut dire François, notamment par Cogenièvre, après 1870, qui a lancé cette mode effectivement du costume d'empire et qui a lancé aussi la mode des noms des co bien Copinard, souvent ouais. Suivi avec un nom de boisson. Donc là,
Copernaud,
voilà, Copinard.
Ouais. On va être lisse, hein, on va pas beaucoup parler boisson, mais continuez à nous décrire le mécanisme de la bande. Vous parliez des masques lourds. Alors les masques lourds derrière, ils font pression sur ceux qui sont devant et qui doivent tenir.
Voilà, ils font pression sur la première ligne et puis cette déambulation est ponctuée par la musique, soit des rythmes plus lents pour laisser les masques se reposer, ou alors des musiques beaucoup plus rythmées et qui compressent complètement la bande, et vous êtes complètement compressé au milieu de cette bande, effectivement, et la première ligne qui empêche effectivement le débordement de ceux qui sont derrière.
Est-ce que ça va tenir?
Quand tu rentres dans la bande des pêcheurs, bah t'es pas tellement rassuré la première fois, bah tu vois cette bande de 5 mètres qui tu rentres dedans... Bon, et après, on voit que ça tient bien, il n'y a pas de problème. Il y a quelques problèmes, mais ça ne va pas bien.
Mais
loin,
c'est solennel, de toute façon.
Chacun se tient. Finalement, il y a un rituel qui existe.
Ah, oui,
il y a un rituel, important. Finalement, qui n'est pas de descendre le gars qui est devant, hein, contrairement à ce que certains peuvent croire. Mais c'est de. Bon, on va un peu à la limite de sa résistance, et après, on le soutient. Hein, c'est un peu un jeu.
Il y a un commerçant qui avait reçu des amis et ils étaient certainement une quinzaine à table. La bande est arrivée et ces braves gens qui étaient en train de déjeuner au son de la musique sont sortis pour voir passer la bande. Hein, c'est ce qu'on dit, on va voir passer la bande. Tout à fait par hasard, mais vraiment, il y avait absolument rien de préparé, parce que ça aurait pas pu être aussi bien synchronisé. Pourquoi cette porte était entrouverte ce jour-là, j'en sais rien. On était une douzaine, et on longeait le trottoir pour se mettre dans la bande. Instinctivement, je passe là, je pousse sur la porte. Elle s'ouvre, et on rentre. Mais sans se consulter, sans se concerter, on rentre
oui,
tous.
Oui, parce qu'il y en a qui rentrent, on se suit.
On arrive dans la salle à manger, la table était prête pour le dessert. Il y avait les bouteilles de champagne qui étaient bien rafraîchies, il y avait toutes les tartes à la crème, les petits fours. On s'est attablé, tous les 20 que nous étions, et je me souviens que cette année-là, on était déguisés en nègres. Alors on a mis des petites serviettes blanches autour du cou, on a tout bu, on a tout mangé. On est reparti pas où on était venu. Ces braves gens, ben, ils l'apprendront maintenant qui leur a fait la bonne farce. Mais enfin, ce jour-là, il n'y avait plus de dessert.
Donc la bande s'était insinuée comme une anguille dans la maison dont la porte était inopinément ouverte. Mais ça, c'est pas le respect des règles. On tient aux règles. Hein. Vous, vous teniez chapelle chez vous et n'importe qui pouvait entrer.
Non, disons que les gens qui peuvent entrer dans les chapelles aujourd'hui sont les gens que l'on connaît ou bien des connaissances qui se portent garant des personnes qui rentrent chez vous pour s'arrêter, pour manger un morceau ou boire quelque chose.
C'était où ça?
Hier soir,
ouais.
C'était chez moi, à Rosendal.
Ah, non mais je continue à vous intriguer, mine de rien, donc vous habitez à Rosendal, qui est une commune qui a été unifiée
qui a une
avec
commune
Dunkerque.
Qui a été associée à Dunkerque, oui, ouais. En 1972.
Et combien d'habitants à Dunkerque?
Alors la ville-centre, à peu près 75 000 habitants, et l'agglo, 200 000 habitants.
Ouais, donc vous avez des talents de géographie.
Oui, un petit peu.
Des informations en ce domaine, Olivier Rigbuche. Bande, chapelle, bal. Alors, nous faisons appel dans cette émission à Un jour ailleurs, Catherine Kless, Serge Martel, à un reportage de Fréquence Nord, au film de Laurent Gallet, mais nous avions sur place notre camarade Vincent Guignot, qui régulièrement participe au Carnaval de Dunkerque et qui est serveur au bal de l'association des corsaires.
Alors, faut savoir que les corsaires dunkerquois est une association philanthropique carnavalesque et historique qui date de 1947. Donc, immédiatement l'après-guerre, ça a été le premier bal de carnaval qui a été donc réorganisé après la guerre. Sachez qu'à bal de carnaval, on peut rien faire s'il n'y a pas quelque chose au milieu de la salle. Donc il faut tourner autour de quelque chose. Et nous, on tourne autour du galion. On a la tête du galion que vous voyez là. Donc il y a des cascadeurs qui descendent, qui attaquent le galion. Bien sûr, les corsaires vaillamment essayent de le défendre. Et bien sûr, ils réussissent, puisqu'on est des corsaires.
Ça tourne alors?
Ça tourne, ça s'appelle un rigodon. C'est-à-dire une danse effrénée autour d'un point fixe. Alors là, dans le cas présent de l'extrait, c'est le bal des corsaires. Donc c'est un galion, une reconstitution de bateau navire 18e. Et puis, par exemple, dans les rues, bien souvent, c'est autour d'une place principale. Et la plus belle place à Dunkerque, c'est la place Jean-Bart, avec la statue du corsaire.
Et on va revenir au personnage de Jean-Bart. Juste un mot sur les balles. Il y a des masques? Où sont les masques? Y a-t-il des masques?
Alors,
y avait-il et n'y a-t-il plus de masques?
Il y a eu pendant longtemps, toute la période du 19e, des masques, mais maintenant, alors c'était plutôt des masques pour faire l'intrigue ou bien des masques pour déambuler dans les rues, mais de manière, on va dire, tranquille, paisible. Maintenant, le carnaval, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, intense, et donc il fait chaud sous un déguisement, même en période d'hiver, et donc bien souvent les gens se griment plutôt, mettent
Moi j'aimais bien l'histoire de ce chanteur de 1875 qui avait trompé sa maîtresse, laquelle s'était vengée en lui envoyant un très beau masque en disant « Je suis une de vos admiratrices, portez-le », et le masque était empreint d'une substance empoisonnée. Et il n'a pas pu l'enlever sans se défigurer. Bon, mais ça, c'est le passé. Hein. Passé plus récent, auquel faisaient allusion les corsaires. Les corsaires ont été fondés en 1947. Alors là, il faut qu'on évoque quand même le moment du relèvement du carnaval, parce que la période de 1940 a été absolument tragique pour votre ville.
Oui, oui, tout à fait. Donc, on a eu les années d'occupation.
Et avant l'évacuation si difficile.
L'évacuation, effectivement.
300 000 hommes, voilà, les Alliés,
les
Anglais, les Français,
les Allemands
l'été 40.
Appelés les bouches inutiles, effectivement, qui ont été, qui ont dû partir de la ville. L'occupation allemande, et puis surtout les destructions, puisque il y a eu les bombardements allemands, puis aussi les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a pratiquement réduit à néant la ville. Hein, 80% des immeubles ont été détruits.
Et qu'est-ce qui restait à la libération?
Les seuls éléments visibles dans le paysage urbain de la ville, c'était deux éléments importants, c'est-à-dire le beffroi de Saint-Éloi, beffroi qui date du XVe siècle, et la statue du corsaire Jean Bart.
Qui avait tenu. Le général de Gaulle est venu faire visite à Dunkerque quand il était président du gouvernement provisoire en 1945. Très beau reportage de Pierre Crenès, dont on va entendre seulement l'épilogue. Pierre Crenès raconte comment Les villages du Nord avaient dressé des arcs de triomphe, comment on avait mis des rangées de chaises le long du passage sur la route, comment le coiffeur de tel endroit avait sorti sa trompette pour jouer la Marseillaise qu'on a évidemment interprétée à Dunkerque dévasté, mais le général de Gaulle y connaissait, ces Dunkerquois.
Oui, étant Lillois, il était venu plus jeune.
Je crois qu'il avait passé des vacances à Malo-les-Bains.
La plage de Malo-les-Bains, oui.
Donc il savait qu'après la Marseillaise, il ne fallait pas manquer un autre rite.
Et maintenant, sur la proposition du général de Gaulle, la foule va chanter l'hymne à Jean Bart. Le chef de la chorale monte sur l'estrade.
Salut, salut à ta mémoire, de tes exploits tu remplis l'univers, dans cet aspect qu'on a de la victoire, et ton rival tu régnas sur les mers, jusqu'au tombeau France mère adorée, jalouse et fière d'imiter sa valeur.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Franck Olivar, qui a préparé cette émission sur le carnaval de Dunkerque, n'était pas peu fier d'avoir repéré cette archive qu'on a laissée en longueur, parce qu'elle est quand même extrêmement émouvante. Il n'était pas question d'abandonner le carnaval, il n'était pas question évidemment d'abandonner Jean Bart à un sort de solitaire.
Non, non. Et alors, ce qui est assez émouvant d'entendre donc cette fameuse cantate à Jean Bart, hein, la cantate à Jean Bart, c'est l'hymne au corsaire. La première fois que ce chant a retenti, c'était le 7 septembre 1845, quand on a inauguré la statue du corsaire sur la place royale, qui est devenue aujourd'hui place Jean Bart. Et le personnage Jean Bart a été... Les carnavaleux se sont appropriés le personnage de Jean Bart et au terme de la bande de Dunkerque, par exemple, eh bien après le Rigaudon, effectivement, les carnavaleux vont chanter la cantate à Jean Bart. Finalement, la place Jean Bart est devenue un petit peu le centre d'une religion séculière pour les carnavaleux, et avec un personnage principal, un mythe, qui est devenu Jean Bart.
Ah, religion séculière, ça sent un peu l'historien, ça, comme un petit vocabulaire. Peu, ouais. Vous auriez fait des textes d'histoire, même un doctorat d'histoire, non?
Éventuellement.
On va pas dire le sujet parce qu'il est assez éloigné du carnaval et puis il ne va pas vous rendre assez séduisant. Peut-être tout à l'heure l'avouerez-vous. À l'image des pêcheurs à Islande, Jean Bart est peut-être parti chercher en mer de quoi nourrir les hommes restés à terre, puisque le plus grand de ses exploits révérés à Dunkerque consiste à avoir mis la main sur un convoi de bateaux de grains.
Un convoi de, c'est effectivement 120 navires de blé en 1694, au large d'une île, l'île de Texel, au large de la Hollande.
Ça n'a pas quand même été facile, le relèvement du carnaval de Dunkerque, parce qu'il y avait le carnaval de Malo-les-Bains, la ville était moins détruite, la reconstruction de Dunkerque a été lente et difficile, avant que la ville ne reprenne son envol avec Usinor en 1960, il y a eu des années bien difficiles.
Oui, tout à fait. C'est à mettre à l'honneur les associations carnavalesques que vous avez citées, comme les Corsaires, mais il y a eu les Acharnés, les Petits Louis, enfin toutes ces associations qui ont été créées après 1945 et qui se sont données comme mission de relever le carnaval de Dunkerque et de mettre au goût du jour cette pratique festive traditionnel de la ville de Dunkerque. Oui.
Exemple du renouveau avec une association, un groupe de chanteurs plus récent encore.
Alors moi je m'appelle Pito, je suis un chanteur des Proutes, un groupe carnavalesque dunkerquois relativement connu.
Sur la région. Et Et ça fait, on va dire, une trentaine d'années déjà qu'on existe, qu'on s'est formé, qu'on entre copains. Au départ, c'était vraiment une histoire de copains, de famille aussi, de cousins. Et on a réussi à garder cette ambiance de groupe pendant, pendant une trentaine d'années. Et je pense qu'on est arrivé à une époque où les chansons de carnaval dataient de l'après-guerre à Dunkerque. Et il y avait besoin d'un renouveau.
Un renouvellement dans le répertoire, parce qu'en fait, le carnaval, c'est pas quelque chose de figé. C'est plein de règles, c'est plein de traditions, mais ça vit. Donc il faut que les chansons soient renouvelées au fil du temps. On a essayé depuis 30 ans d'apporter au répertoire de nouvelles chansons qui sont plus basées sur la vie actuelle, sur les histoires dunkerquoises du moment. Les chansons qui datent de 40, 50 ans commencent maintenant à être moins intégrées et comprises par les jeunes parce qu'ils n'ont plus les références de l'époque. Nous, on a essayé depuis 30 ans d'enjoliver le répertoire et de prendre pour thème des vies courantes dunkerquoises qui sont plus récentes. Et je pense que c'est ce qui a un peu marché. Et c'est pour ça qu'on essaye encore maintenant de rajouter régulièrement des nouvelles chansons avec des paroles différentes et surtout des mélodies différentes pour essayer de faire adhérer de plus en plus de jeunes générations.
Un, deux, trois, four. Mais les poules touchent du chat, parlons de qui ? Mais les poules touchent du chat, parlons d'un chien. Mais les poules touchent du chat, parlons de qui ?
Mais je manque peut-être de référence, mais j'ai compris. Mais les proues touchent-tu le chien ? Ce qui veut dire.
Mais c'est-à-dire que si vous ne mettez pas une chanson de ce groupe folklorique dunkerquois, ils mettront peut-être leur menace à exécution, surtout si vous avez un chien.
Ah oui, d'accord. vous allez voir d'ailleurs, chers auditeurs, que les animaux peuvent être traités curieusement pendant le carnaval de Dunkerque, mais n'en disons pas trop. Et racontons ce qui vient de se passer dimanche, lundi, ce qui va se passer cet après-midi, jour de la bande de Rosendahl.
Oui, alors ça s'appelle les Trois Joyeuses, ouais. Hein, c'est-à-dire le carnaval, les jours gras, donc avant le mercredi des cendres, avant l'entrée normalement, pendant la période de carême. Alors je voudrais simplement dire un mot sur la chanson qu'on a entendue, effectivement, c'est une chanson des Proutes, qui sont les dignes héritiers des chansonniers dunkerquois qui ont régulièrement enrichi le répertoire du carnaval dunkerquois.
Ouais. Alors on va voir ce qui est particulièrement chanté pendant les Trois Joyeuses.
Mon père partait le samedi soir et rentrait le mercredi des cendres. Hein. Il partait 2-3 jours. Je dis pas qu'il rentrait pas le soir à la maison, mais enfin c'était les Trois Joyeuses et puis on n'en sortait pas dans beaucoup de tables de la région.
Oui,
ce jour-là,
comme à la Banderie à Lille, c'est les boules. Mangez vous, ben si le mercredi des cendres, c'est les anguilles, il n'y a pas de problème, on mange les anguilles.
Il y a une préparation spéciale, les anguilles ?
Oui, les anguilles à la dunkerquoise avec du vin rouge à la place du vin blanc. c'est assez dur.
Quel est le plus beau moment du carnaval pour vous ?
Lorsque je suis sur le balcon de l'hôtel de ville et je vois toute cette foule rassemblée, cette foule qui est libérée d'un certain nombre de contraintes quotidiennes, se côtoyer et attendre les harangues qu'on leur lance pour perpétuer également une tradition, je trouve que, pour ma part, c'est un très beau moment.
Est-ce qu'il y a une origine connue à ce jet de harangues ?
Non, vous savez, ça remonte dans la nuit des temps.
Il est gonflé, Claude Pourvoyeur, vous avez entendu, on y reviendra, le chapeau, ça c'est ce qu'on réclame au maire d'aujourd'hui. Mais il est gonflé, l'ancien maire, Claude Pourvoyeur, qui a si souvent lancé les harangues depuis le balcon de l'hôtel de ville. C'est lui, en fait, qui a créé la tradition.
Oui, c'est-à-dire que il y a un jeu de mots avec son nom. Les Dunkerquois, on dit pourvoyeur des clippers, en fait, ce sont des harangues. Et donc, il les a pris au mot et a lancé des harangues à partir de 1967.
Mais c'est ça qu'il appelle la nuit des temps.
C'est ça qu'il appelle la nuit des temps.
Ouais.
Mais je rappelle quand même que c'est une tradition qui, à mon avis, a dû être copiée sur nos amis belges de la ville d'Ypres, qui, eux, avaient pour tradition de lancer des chats.
Des chats.
Du haut de l'hôtel de ville. En tout cas, des chats vivants jusqu'en 1817. Après, ce n'était des sortes de peluches. Oui, nos amis belges.
Et Delbar, alors, qu'est-ce qu'il lançait? Le maire successeur de Pourvoyeur, qui a été maire aussi pendant très longtemps à Dunkerque.
Alors comme le carnaval quand même est un élément où la farce, le comique de situation est toujours présent, eh bien pareil, jeu de mots avec son nom de famille, hein, Delebar, et donc quelqu'un un jour a lancé l'idée de Delebar des homards, et donc du coup en plus du poisson, on a le droit à des homards au lancer de harengs du haut de l'hôtel de ville.
Voilà. Et si la foule maintenant réclame à Vergriette, le nouveau maire, donne-nous ton chapeau, c'est que lui, il a réinventé une tradition qu'il a greffée à celle récente de Provoyeur, celle de s'habiller, de se costumer avec un chapeau de corsaire.
Ben disons que le maire d'aujourd'hui, Patrice Vergriette, est habillé en corsaire, donc il a un chapeau de corsaire, donc je suppose que la foule lui réclame son chapeau de corsaire.
Vous supposez, mais je continue à vous intriguer, vous le voyez jamais, le maire ?
De temps en temps.
Ah, parce que vous travailleriez à la mairie ?
Éventuellement aussi.
Oui, mais enfin, vous venez en candidat libre ici. Et la thèse que vous avez faite, hors d'histoire, on peut l'avouer maintenant, c'est sûr.
Les hôpitaux généraux.
Les hôpitaux généraux, oui, on l'aurait dit au début, ça aurait perdu du sel, cette émission. Ce soir, Mardi Gras, et puis alors, tout va s'arrêter, non ?
Vers les années 1850, un jour de carnaval à Dunkerque, un curé, enfin le curé Saint-Ouen, je pense, était allé donner l'extrême-onction à un mourant, et donc était parti accompagner ses deux enfants, comme ça se faisait à l'époque, en grande tenue, en tenant sa sonnette, etc. Et c'est le jour de bande des pêcheurs, et la bande des pêcheurs, donc, ça se passait au moment où la bande des pêcheurs s'était un peu dispersée, et le tambour sonnait le rappel, hein, comme ça se fait encore de nos jours, le tambour sonne le rappel, les fifres arrivent, et on chante Talir Talour, etc. Et le curé est arrivé avec cette hostie qui tenait dans son ciboire pour aller porter ça là, comme viatique au gars qui allait mourir. Et il paraîtrait que tous les masques se seraient mis à genoux au passage de ce curé. Et après, il aurait repris le carnaval comme s'il n'aurait rien été.
Oui, parce que ça, c'est la question. Comment ça s'arrête ? Les carnavaleux reprennent le carnaval une fois qu'est passé l'extrême-onction. Et une fois qu'est fini le Mardi Gras et que commence le carême, mercredi décembre, on peut vraiment s'arrêter ?
Mais alors, c'est vrai qu'il faut replacer le carnaval dans la tradition liturgique de l'Église, qui était effectivement une période des jours gras de défouloir avant effectivement le mercredi décembre, où le mercredi décembre, normalement, le carnaval s'arrête, et puis on rentre dans le temps de carême. Mais bon, comme le carnaval est une fête de la dérision et de la farce, effectivement, ça a tendance à se prolonger au-delà du mercredi décembre. Alors d'abord, si on resitue là à peu près au 19e siècle, selon le reportage, dans des fêtes privées ou des salles privées, puis aujourd'hui, effectivement, sur la voie publique avec la sécularisation de plus en plus de la société, effectivement.
Donc grand dîner d'anguille demain soir.
Voilà, à la matelote, en général.
Et dimanche, ça repart.
Et dimanche, ça repart.
Enfin, il faudrait quand même pas que le carnaval occupe la moitié de la vie de Dunkerque.
Ben, aujourd'hui, ça coûte bien, par exemple, deux mois dans l'année où le carnaval bat son plein. Avec le carnaval de la Violette, le carnaval de Malo, dimanche prochain.
Mais c'est vrai que Copinard disait là-haut, tout près de Jean Bart, t'es en gloire. Et nous, à cette heure, on est tout en pleurs. C'est difficile de se quitter. À plus et au revoir. Je sais pas si vous savez le dire en flamand.
À Nostoké, on dit en flamand.
Ah ben voilà, c'est ça que j'avais noté, mais que je n'osais redire. Merci à vous, Olivier Ribuche. Cette émission a été préparée par Franck Olivard et Vincent Guignot à la réalisation. Audrey Ripouille et la technique, c'était Guillaume Roux. Mathieu Vidard.
Oui Jean, dans un instant dans la tête au carré, nous quittons la foule du carnaval pour aller dans le silence de la forêt. On parlera de la sensibilité des plantes.
Heureusement que vous ne parlez pas de la sensibilité des chats, parce que vous auriez été en consonance avec les propos terribles que nous avons tenus il y a un instant. Donc, dans la tête au carré, dans peu de minutes.